Alors, bonjour à tous. Alors, je suis pas sûre de savoir de quoi je parle, mais en tout cas, je me laisse inspirer par l'esprit. j'ai plus besoin de me présenter maintenant. Peut-être je peux préciser, j'ai 25 ans. Et puis, je suis investie dans cette église, aussi dans la louange, comme vous voyez. Il y a beaucoup de choses sur mon cœur. Ce matin, je suis en plein dans les préparatifs de ma soutenance. Je me suis dit que, pour faire une cohérence, que je pouvais vous parler et vous partager de mon sujet de mémoire que j'allais défendre fin août. Pour vous partager aussi ce que je fais. Comme on est une famille, on prend part à ce que nous vivons les uns les autres. Le sujet portait aussi à propos. J'avais envie de vous partager. Aujourd'hui ou ce matin, on va parler de la lettre à Philémon ou une invitation à changer de regard sur mon prochain. Mon objectif ce matin, ça va être, comme j'ai déjà dit, de vous partager sur quoi j'ai travaillé, mais pas que. C'est aussi l'occasion de partager aussi comment est-ce qu'on peut approcher un texte. Un texte biblique, donc dans votre temps personnel, comment est-ce que vous pouvez lire un texte, quels sont les différents aspects du texte qui peuvent nous parler. Moi, quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert qu'on pouvait être créatif, qu'il y avait différentes manières d'approcher un texte, j'ai trouvé ça extrêmement riche et le texte biblique en lui-même a commencé à me parler de différentes manières. C'est aussi pour moi un challenge que je me suis lancée, de ne pas simplement rester dans le domaine académique, dans le travail que j'ai fourni pendant 6 mois, mais aussi de voir comment est-ce que mon travail, je peux l'utiliser pour édifier l'Église. Et je pense que c'est ça, en fait, le plus important. Savoir comment est-ce que je peux utiliser ce dans quoi j'investis le plus mon temps au quotidien pour nous exhorter les uns les autres et faire du bien, en fait, à l'Église pour qu'elle aille aussi de l'avant et qu'elle aille de gloire en gloire. Je vous propose de sortir vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible papier derrière, on a toute une panoplie de Bibles. Il y en a avec des gros caractères, avec des petits caractères. Et en fait, on va lire ensemble la lettre à Philémon. C'est une lettre qui est très courte et je me suis dit que ça pouvait être sympa de simplement aussi lire la parole ensemble. Et puis, si vous êtes têtu et que vous voulez rester sur votre téléphone, rester sur votre téléphone, ça va aussi très bien. Oui. Le papier est silencieux, c'est pour ça que je le recommande. Alors, avant de lire la parole, je vais juste prier. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, viens nous parler par ton esprit et inspire chacun de nous, Seigneur. Et que nous ressortions de ce temps édifié et toujours plus amoureux de toi et des uns des autres. Amen. Ok, alors je lis. Paul, prisonnier de Jésus-Christ et Timothée, le frère, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, et à Apphia, notre sœur, et à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'Église qui s'assemble dans ta maison. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu en faisant continuellement mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les saints. Que ta participation à la foi soit efficace. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons accomplir pour la cause du Christ. Grande joie et consolation m'ont déjà été apportées par ton amour, frère, tu as réconforté le cœur des saints. Aussi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ton devoir, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une requête. Oui, moi Paul, je suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime, qui jadis t'a été inutile et qui maintenant nous est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon propre cœur. Je l'aurais volontiers gardé près de moi, afin qu'il me serve à ta place dans la prison où je suis à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que ce bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il vienne de ton bon gré. Peut-être Onésime n'a-t-il pas été séparé de toi pour un temps ? N'a-t-il été séparé de toi que pour un temps, qu'afin de t'être rendu pour l'éternité ? Non plus comme un esclave, mais comme bien mieux qu'un esclave, un frère bien-aimé. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, et en tant qu'homme, et en tant que chrétien ? Si donc tu me tiens pour ton frère en la foi, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il a quelque dette envers toi, porte cela à mon compte. C'est moi, Paul, qui l'écris de ma propre main. C'est moi qui paierai. Et je ne te rappelle pas que toi, tu as aussi une dette envers moi. Et c'est toi-même. Allons, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Donne à mon cœur son réconfort en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris. Je sais que tu feras plus encore que je ne dis. En même temps, prépare-moi un logement. J'espère en effet, grâce à vos prières, vous être rendus. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'avaient jamais lu la lettre à Philémon ou qui l'avaient jamais entendue ? Déjà lu ? Ok. Donc, ok. Je demande parce qu'en général, c'est une lettre, elle est très très courte et elle est un peu inconnue parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire de cette lettre. Ah ok, c'est une lettre de circonstance. Il y a beaucoup de choses qui nous sont un peu... flou, disons, dans pourquoi est-ce que Paul envoie, de quoi est-ce qu'il est question, parce qu'il n'est pas totalement clair. C'est pas comme les lettres qu'il envoie à d'autres églises, hein, où il y a des points, disons, de comportement, des points du contenu de la foi, qui sont précis. On sait, ah voilà, ça je peux utiliser pour moi. Et là, Paul, il écrit à un collaborateur et puis il lui renvoie quelqu'un. On ne sait pas trop pourquoi il est avec lui. Et puis voilà, on ne sait pas trop. Peut-être que vous avez déjà été inspiré, hein, c'est possible. Mais c'est vrai que ce n'est pas une lettre que j'ai souvent entendue avant de commencer à l'étudier. Et donc, mon premier point, ce sera simplement de voir avec vous les caractéristiques de cette lettre. Cette lettre, comme j'ai déjà dit, c'est une lettre de circonstance. Son propos, donc ce que Paul écrit à Philémon, s'inscrit dans un contexte qui est bien défini et une situation qui est très spécifique. Il y a des événements précis qui se sont déroulés en amont de l'écriture de cette lettre, qui sont donc adressés à Philémon, mais pas que. Et puis, ces événements-là ont poussé Paul à écrire. Et ce qui est très intéressant avec cette lettre, c'est qu'elle nous pose une colle. C'est qu'on ne connaît pas les tenants et aboutissants de ce qui a motivé à rédiger cette lettre. Et donc, pour faire un peu un résumé, parce que la lire une seule fois, il faudrait la lire plusieurs fois pour que vous l'ayez bien en tête, mais je vous propose un résumé. Donc, Paul est un apôtre qui se trouve en prison. Et puis, il écrit cette lettre de sa part et aussi de la part de Timothée, son disciple. Et il envoie une lettre à Philémon, un collaborateur bien-aimé. Il envoie à Philémon, mais il envoie aussi à Apphia, à Archippe, et à toute l'église qui s'assemble dans sa maison. Donc, chez Philémon, il y a une église qui s'assemble. Peut-être que vous avez lu aussi dans Actes des Apôtres, avant c'était dans les maisons qu'on vivait l'église. Voilà. Et donc, Philémon reçoit chez lui plusieurs croyants qui se rassemblent pour vivre l'église. Donc, on peut dire, en quelque sorte, que Philémon, enfin, on peut imaginer que Philémon est berger et pasteur, d'une certaine manière. Et aussi qu'il est probablement fortuné. Parce qu'il reçoit beaucoup de gens chez lui, et que quand on reçoit les gens, quand on reçoit même encore aujourd'hui, les gens, autant de monde en tout cas, il y avait justement un personnel, autrement appelé esclave, qui venait pour aussi servir ce qu'il avait besoin, donc pour se sustenter. Et puis il fallait aussi un espace, etc. Et puis on peut voir aussi que Philémon est très actif pour la croissance de l'Église, comme Paul le reconnaît, et en fait... il le reconnaît et il l'en félicite. Et puis, il l'encourage à continuer ça. Et puis, Paul lui écrit au sujet d'Onésime. Je ne sais pas si vous avez réussi à... Il a été mentionné une seule fois. Onésime, il me semble, une seule fois. Et donc, Onésime est au cœur de la raison de pourquoi Paul envoie cette lettre. Et Paul, en fait, il envoie cette lettre et il lui renvoie en même temps Onésime et il lui demande de l'accueillir comme s'il s'agissait de lui-même. Et en fait, c'est ici que commencent nos questionnements, finalement. Qui est Onésime ? Pourquoi est-ce qu'il est avec Paul alors que Paul se trouve en prison ? Pourquoi est-ce qu'il est renvoyé auprès de Philémon ? Qu'en est-il de ce tort qu'aurait causé potentiellement Onésime à Philémon ? Je mentionne ce tort-là parce que au verset 18, « Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il a quelque dette envers toi, porte cela à mon compte. » Donc on a plein de questions comme ça, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est là-bas. On sait aussi que Paul l'a engendré dans la foi, donc il l'a mené à Jésus-Christ. Et il a donné sa vie à Jésus alors qu'il était avec Paul. Donc voilà un peu, ce qu'on sait de cette lettre-là. Et à toutes ces questions, on peut tenter de trouver des réponses. Moi, c'est ce que j'ai fait. Elles resteront un peu de l'ordre de l'imagination et peut-être du plausible aussi. Et je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'on peut utiliser notre imagination et ce qu'on peut déduire de la lettre pour une exhortation. Et c'est d'ailleurs peut-être à cause de ce flou-là que cette lettre peut-être est un peu mise de côté pour les prédications et les études bibliques. Donc, j'ai mis le contexte de la lettre et maintenant, j'aimerais un peu vous parler de ses caractéristiques plus formelles. C'est une lettre qui est hautement rhétorique. Alors, la rhétorique, c'est quoi ? C'est l'art de bien parler. C'est l'art qui donne les règles du bien dire. Ou encore, c'est la science et art qui se rapportent à l'effet du discours sur les esprits. Et dans l'Antiquité, donc l'Antiquité, c'est au moment où Paul, c'est la période qui concerne Paul, il y avait beaucoup d'ouvrages qui étaient écrits, notamment en lien avec le droit. Et ils écrivaient en fait plein de figures de style, par exemple la métaphore, ou une comparaison. Ta peau est comme une fleur, la pluie. J'ai atteint mes limites de métaphore. Ils écrivaient donc des ouvrages, notamment dans le droit, pour en fait essayer de gagner le cas quand ils étaient devant le juge. Et donc, ils devaient bien parler, ils devaient essayer de persuader. C'était ça le but, de persuader que leur client, si on parle en termes d'aujourd'hui, que leur client était innocent, que leur client, méritait le dû, etc., ce qu'il réclamait était bien à lui, etc. Et donc, ils avaient mis en place plein de manières de procéder pour pouvoir convaincre de manière subtile avec le langage, avec des tournures, etc. Et Paul, en fait, il évolue dans ce milieu-là et il est influencé par ça. Il est influencé par ça. Et j'aimerais juste vous donner quelques petites bribes comme ça d'éléments donc rhétoriques qu'on peut voir dans la lettre. Comme ça, peut-être que vous pourrez peut-être, alors que vous allez lire d'autres textes, un peu essayer de chercher qu'est-ce que Paul essaye de faire là ? Comment est-ce qu'il essaye de convaincre ? Est-ce que moi, aujourd'hui, ça me convainc ? Etc. Donc c'est une lettre de, on peut dire c'est une lettre de persuasion où Paul essaye de convaincre Philémon de quelque chose. Comme je l'ai déjà dit, c'est écrit regorge de procédés rhétoriques, comme j'ai déjà défini avant, mais aussi littéraires. Et il cherche les bonnes dispositions de Philémon. Et donc voici quelques éléments qui pourront inspirer vos prochaines lectures. Donc par exemple au verset 1. Paul prend à témoin la communauté. Donc, cet écrit s'adresse d'abord à Philémon, mais Paul, par la mention de la communauté qui se rassemble dans sa maison, en fait, il les prend à témoin dans ce qui s'apprête à être lu. Donc, les lettres, elles étaient écrites, mais elles étaient aussi dites à voix haute, elles étaient lues à voix haute. Et en fait, c'est une lettre très personnelle adressée à Philémon, mais il s'adresse aussi à la communauté. Ça veut dire que cette lettre, elle sera lue en communauté. Donc ça veut dire que ce que Paul va reconnaître chez Philémon, son amour, etc., et ce qu'il va lui demander aussi, les autres vont entendre et ils seront témoins et peut-être ils agiront comme des gens à qui Philémon sera redevable aussi en tant que responsable de l'assemblée qui se rassemble dans sa maison. Dans les versets 5 à 7 aussi, par exemple, Paul mentionne les capacités de Philémon et reconnaît ses capacités auprès de tous les saints. donc de manifester la foi, de manifester l'amour, la consolation, d'être un exemple. Et cette mention explicite qui est utilisée, en fait, elle va être utilisée, on peut voir comme ça, on n'est pas obligé, hein, je vous force pas à le lire comme ça, mais on peut voir comme un socle sur lequel Paul, après, va bâtir sa demande. Typiquement, si je dis à Nyusa, par exemple, « Mais Nyusa, t'es tellement généreuse et puis t'es tellement accueillante, mais tu sais, moi, j'ai des problèmes d'argent. Est-ce que tu n'aurais pas 10 francs à me prêter ?» Ben ça, par exemple, c'est un moyen pas du tout subtil, mais c'est un moyen de le faire. Et donc, j'ai un peu grossi les traits de ce que Paul fait. Mais il ne faut pas y voir, quelque chose de mal intentionné ou de malin. Mais simplement, Paul reconnaît chez Philémon des dons qu'il a reçus de Dieu, le fait qu'il manifeste de la foi, de l'amour et de la joie. Et parce qu'il dit, voilà, toi, tu témoignes de ça, il va utiliser ça comme un socle en disant, mais continue d'exercer et de manifester ces caractéristiques pour ce que je te demande selon la volonté de Dieu. Donc voilà, ça, c'est un autre élément qu'on peut voir. Il y a aussi, par exemple, au verset 9, où Paul va, en quelque sorte, susciter une sorte de... l'empathie de son locuteur, en fait, quand il va mentionner sa situation, en disant « mais moi, je suis un vieillard », etc. Et par exemple, au verset 17 aussi, Paul, dans sa demande, et ça, je vais préciser hein, au fil du temps, Paul, en fait, il vient troubler, d'une certaine manière, la frontière des identités entre lui, entre Onésime et entre Philémon, pour qu'en fait, l'affection de Philémon se déplace sur Onésime, tel qu'il l'éprouve pour Paul. Donc, on sait que Paul et Philémon sont collaborateurs. On n'est pas encore tout à fait sûr de qui est Onésime, mais Paul lui dit « Reçois-le comme si c'était moi ». Mais Paul dit aussi « Je l'aime comme mon propre cœur ». C'est fort. Et donc, Paul, il s'identifie d'une certaine manière à Onésime pour qu'en fait, Philémon, quand il se rapporte à Paul, se rapporte de la même manière à Onésime. Et puis finalement, dans les versets 23 et 25, il y a aussi donc, la mention des gens qui vont venir appuyer le propos que Paul dit, par exemple, Luc, Démas, Archippe, etc., pour dire, voilà, il y a tous ces frères-là, tous tes collaborateurs qui sont aussi avec moi dans ce que je dis. Ok, donc ça c'était juste quelques éléments intéressants. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les prochains dimanches si c'est quelque chose qui vous a inspiré pour vos lectures, je serais assez intéressée de savoir. Mais la question aussi, donc ok, Paul demande à Philémon de recevoir Onésime et puis il le presse, il dit comme c'était mon cœur, moi qui l'ai engendré, je l'aime, mais qui est Onésime ? Et je comprends cette lettre comme Onésime étant l'esclave de Philémon, esclave qui s'est enfui de chez Philémon et qui allait retrouver Paul. Et dans l'Antiquité, en fait, quand il y avait un litige entre un esclave et son maître, on pouvait faire appel à un amicus domini. Donc, c'est un homme qui vient être l'intermédiaire entre l'esclave et son maître pour venir régler les litiges. Et peut-être que Paul avait ce rôle de médiateur et c'est pourquoi maintenant il le renvoie avec une lettre en disant « reçois-le ». Et donc j'avais simplement, avant de continuer aussi dans en quoi cette lettre peut être une exhortation pour nous, vous dépeindre un peu qu'est-ce que c'était l'esclavage en fait à l'Antiquité. Je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il est beaucoup question d'esclavage. Quand on entend esclavage, peut-être qu'on pense aussi à l'esclavage qui s'est passé en Amérique du Nord et le combat que mènent les Afro-Américains. Mais en réalité, il y a quand même il y a de grandes différences et il ne faudrait pas, faire un copier-coller sur les conditions et comment ça se passait. Donc en fait, un esclave à Rome avait un statut inférieur. Il avait un statut inférieur par rapport aux autres citoyens qui étaient romains ou alors aux autres personnes de la cité. À Rome, le maître avait un droit absolu sur son esclave, et puis il avait le droit de le punir comme bon le semblait, et ce droit-là, il était acquis depuis très longtemps. Et la seule chose qui pouvait protéger l'esclave, c'était de le considérer comme une propriété privée. C'est-à-dire que si maintenant vous alliez agresser un esclave, bah en fait, ce qui dérangeait le plus, c'est que c'était un bien et que vous alliez causer du tort au maître qui le possédait plutôt qu'à l'esclave parce qu'il est un être humain. L'esclave ne disposait d'aucun droit, d'aucun statut politique et son statut économique était très restreint. Il n'avait pas la capacité d'hériter et il pouvait tout de même gagner de l'argent selon la volonté du maître. Et il pouvait accumuler une somme d'argent et après, il pouvait payer son affranchissement si le maître était d'accord. Aussi, l'esclave, il devait endurer le statut permanent de jeune garçon, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas évoluer dans sa masculinité et que, par exemple, il n'était pas reconnu comme père s'il avait un enfant. Ce statut permanent aussi de jeune garçon pouvait avoir un incidence sur le fait qu'il soit considéré comme un objet sexuel et dont on pouvait disposer. Il en est de même pour les femmes, et les femmes, c'était, une condition encore pire. Donc il y avait l'esclave était un corps était un objet dont on pouvait jouir pour différentes tâches. Différentes choses qu'on voulait lui faire faire. Et puis, ils étaient maltraités, quoi. Ils n'avaient aucune valeur morale. Ils étaient perçus comme des choses, des possessions. Et le fait d'avoir des esclaves, c'était un signe de richesse. Et donc, la question qu'on s'est posée, donc maintenant que vous savez qui est Onésime, quelle était potentiellement sa condition, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que Paul, en fait, il essaye de faire ? Qu'est-ce que Paul, est-ce que il demande l'émancipation d'Onésime ? Et en fait, ce que j'ai compris de cette lettre, donc là, je vous résume aussi mon travail, c'est que conformément au droit romain, Paul, il reconnaît à Philémon le pouvoir qu'il a de décider de ce qu'il en est de son esclave. Il adresse quand même des demandes implicites selon le statut qu'il a, en fait, dans la communauté. Il a une autorité sur Philémon. Et donc, il va quand même solliciter ce pan-là de son autorité pour dire qu'il s'attend à ce qu'il manifeste de l'amour, de la bonté, conformément à qui est Dieu. Et on comprend qu'il demande de libérer Onésime. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant ? Comment est-ce qu'on utilise ça pour notre marche au quotidien ? Comment est-ce que ce texte vient nous rafraîchir ? Et premièrement, une invitation nous est adressée à tous. Elle était adressée à Philémon d'abord, elle était adressée à la communauté, et elle nous est adressée à nous aujourd'hui. Et cette invitation, en fait, elle consiste dans le fait que nous sommes invités à changer de regard, premièrement, sur notre prochain. Nous l'avons vu, ce qui différencie Onésime de Philémon et de Paul, c'est son statut social. On l'a vu dans d'autres lettres, Paul dit qu'il possède la citoyenneté romaine, et Paul, en fait, il l'invite à un dépassement de ses... j'ai dit convention sociale, mais je ne sais pas si c'est convention sociale, mais c'est... ses prérogatives. Merci. Y a un système qui régit la société en classe et Paul, il invite à dépasser ces réalités-là. Alors qu'Onésime a donné sa vie à Jésus, Paul indique que les distinctions que la société elle impose et les comportements qui y sont associés ne sont plus valables dans la communauté des croyants. Dans Galates, on a lu aussi « Il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec » ni esclave, ni homme libre. Je n'ai pas dit dans l'ordre. Donc Paul l'a déjà dit dans d'autres lettres. Et ici, c'est une manière dont il invite à vivre ces réalités-là, ces réalités qui ne sont pas du monde, mais qui sont du royaume. Paul, un citoyen romain, exprime un énorme amour, un amour débordant pour Onésime. Il n'a pas peur de s'associer à ce dernier. Il lui dit « Lui qui est comme mon cœur ». Il n'hésite pas à plaider en sa faveur alors qu'il n'est qu'un esclave et qu'il a sûrement fauté, comme on l'a lu juste avant. S'il t'a causé quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur moi. Donc en réalité, il n'y a rien de vraiment désirable chez Onésime, je trouve. C'est un esclave, il a sûrement fauté. Quelle faute, on ne sait pas, mais on peut tout imaginer. Il s'est enfui en plus pour aller chercher Paul comme un médiateur, parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Et Paul, quand il voit Onésime, il dépasse cet état de fait-là. Et il invite Philémon à faire de même. Seulement Paul, à la base, Onésime n'est pas son esclave. Il n'a pas payé pour l'avoir. Voilà, il n'a pas cohabité avec lui. Il ne sait pas, sauf en prison, mais il ne le possède pas en tant que tel. Et on lit au verset 15 et 16, « Peut-être Onésime n'a-t-il été séparé de toi pour un temps qu'afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme bien mieux qu'un esclave, un frère bien-aimé. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, et en tant qu'homme et en tant que chrétien ?» Et là, en tant qu'homme et en tant que chrétien, on peut dire « et dans la chair et dans l'esprit ». Donc en fait, je rajoute là, en fait, cette réalité-là, elle vient en fait de cette réalité auquel Dieu nous donne accès, mais elle doit aussi s'incarner dans la chair et dans l'esprit. En Christ, Onésime n'est pas un esclave ou n'est plus un esclave. Il est enfant de Dieu, malgré tout ce qui viendrait le définir. En Christ, il est enfant et ainsi Philémon, lui-même enfant, doit le considérer comme un frère bien-aimé. Et ce que Paul, je ne sais pas si j'arriverai bien à vous transmettre à quel point c'est scandaleux ce qu'il lui demande de faire, c'est que Philémon doit accueillir un esclave qui a fauté, qui a désobéi à son autorité, et normalement une situation normale, on mettrait un collier de fer, on pourrait brûler l'esclave, on pourrait le battre de coups, on pourrait le tuer, on pourrait le renvoyer. Donc, il n'y avait pas de pitié pour les esclaves insoumis. C'était très sévère. Et aussi parce que le maître qui ne se faisait pas respecter pouvait engendrer une sorte de rébellion des autres esclaves, mais aussi aux yeux des autres esclavagistes, les autres qui possédaient des esclaves, ils pouvaient dire « Ouais, mais lui, il fait quoi ? Enfin, il va commencer une révolution chez les esclaves. » Donc, ce que Paul demande, ce n'est pas anodin, c'est une conversion de regard que Philémon est appelé à opérer, convertir son regard. Lorsqu'on devient chrétien, notre identité est chamboulée. Elle est même plus que chamboulée, en fait. Elle est radicalement transformée, il prend et il retourne, c'est plus jamais la même chose. Et le regard qu'on porte sur autrui et le monde qui nous entoure doit aussi changer, radicalement. On ne peut plus regarder comme avant. Alors qu'Onésime était un esclave ne possédant pas d'individualité propre, qu'il était constamment considéré par son utilité, if you want a fun fact, Onésime, ça veut dire utile. Donc, il était considéré par son utilité, on l'avait même appelé utile. Donc, c'est ce qui vraiment venait le définir dans son identité profonde. Il n'était qu'utilité, donc on l'utilisait. Il était probablement malmené et puni, et potentiellement, il ne satisfaisait pas forcément son maître constamment. Et Philémon est appelé à changer de regard sur Onésime. Et je trouve que l'histoire du bon samaritain, en fait, elle vient illustrer d'une bonne manière cette conversion de regard et se dire, mais qui est mon prochain ? Et pourquoi je suis appelée à le considérer ? La deuxième invitation qui découle de cette première invitation à changer de regard. On ne peut pas changer de regard et ne pas changer d'attitude, ne pas changer de comportement. Parce que le changement de comportement vient manifester ce changement de regard qu'on a eu sur l'autre. Et donc, cette deuxième invitation qui nous est adressée, c'est d'accueillir de manière inconditionnelle. Et ce changement, comme je l'ai déjà dit, de regard doit se manifester par les actes, témoignage de ce changement. Il faut changer de regard et par ce biais, Dieu appelle Philémon à accueillir Onésime, Dieu nous appelle à accueillir notre prochain. Et donc, je vous propose de lire la parabole du bon samaritain en Luc 10, des versets 25 à 37. Un enseignant de la loi se leva et posa une question pour lui tendre un piège à Jésus. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment la comprends-tu ? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même, aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin. Il les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? C'est lui qui a eu compassion de lui, lui répondit. C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Il y a tellement de choses à dire sur ce passage. J'aimerais juste relever que Jésus, dans sa parabole, il mentionne un prêtre, un lévite et le samaritain. Mais ces 2 premiers, ils représentent la loi. Ils font le lien avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez un peu lu les textes de l'Ancien Testament. Le lévite, c'est celui qui est dans le temple et qui loue, qui garde le temple. Il y en a aussi qui font les sacrifices, qui purifient, etc. Et l'autre, c'est un enseignant, je crois. Je ne retrouve plus. Mais en tout cas, Jésus mentionne des gens qui sont vus comme des exemples, comme incarnant la loi de Dieu, comme incarnant sa présence. Et le Samaritain, en réalité, il y a des conflits. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais le Samaritain n'est pas considéré comme de la part du peuple juif, comme, disons, le meilleur ami. Donc, Jésus aussi prend quelqu'un qui est considéré comme, je ne sais pas comment dire, qui n'est pas considéré, voilà, qui n'est pas ce qu'il devrait être, qui n'est pas un exemple, pour montrer en fait quel exemple il faut suivre. Et je trouvais ça assez fort. Disons que ce que Dieu nous demande de faire n'est pas toujours ce qu'on croit, ou de la manière dont on devrait le faire. Et donc, en accueillant notre prochain, en le recevant tel qu'il est, en manifestant l'amour, nous accomplissons la volonté de Dieu. Il dit, comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle ? Dieu dit, tu m'aimes et tu aimes ton prochain. Donc on accomplit la volonté de Dieu. Mais non pas le prochain qui nous arrange, celui avec qui on s'entend bien, celui qui sent bon, celui de qui être l'ami est avantageux ou valorisant. Mais c'est aussi, pas que lui non plus, mais aussi et surtout, parce que c'est dur, celui qui est méprisé par la société, celui qu'on ne peut pas supporter, celui qui nous dégoûte, celui qui nous fait du mal et celui qui ne nous comprend pas et que nous ne comprenons pas. Et Jésus lui-même nous accueille alors qu'il nous trouve sales, mal en point, alors que nous l'avons offensé. Et il nous accueille. Et Jésus est notre exemple. Il nous a montré la voie le premier pour que nous puissions marcher à sa suite. Jésus nous accueille tous et il nous appelle à faire de même, à nous accueillir les uns les autres et à accueillir et à porter attention à notre prochain. Et la beauté de ce texte, comme celui de la parabole du bon samaritain, c'est qu'il nous invite à encore plus encore. Et ce plus encore, c'est à une responsabilité pour notre prochain, alors que nous ne lui devons rien et que nous ne pouvons lui réclamer rien en retour. Paul dit à Philémon, reçois-le comme ton frère bien-aimé, alors que c'est son esclave. C'est un changement radical du regard que Philémon doit porter sur Onésime et il doit l'accueillir comme si c'était Paul. Je ne sais pas si on peut imaginer comment Philémon recevait Paul, mais je pense qu'il le recevait en grande pompe. Il y a les serviteurs à l'entrée. Je ne sais pas si vous avez vu des films du 18e, qui peignent un peu le 18e siècle. Il y a les serviteurs devant la grande maison et ils sont tout droits, tirés quatre épingles. Tout est prêt, la nourriture est prête, les lits sont frais, sont propres. Et Philémon doit organiser l'accueil d'Onésime comme tel. Alors que normalement, c'est Onésime qui prépare l'accueil. C'est un changement radical, radical. Et donc, comme j'ai dit, ce texte nous invite aussi à une responsabilité pour notre prochain. Ce texte nous invite à nous rendre responsables de et pour notre prochain, et c'est mon dernier point. Je lis au verset 17, « Si donc tu me tiens pour ton frère en la foi, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il a quelque dette envers toi, porte cela à mon compte. C'est moi, Paul, qui l'écris de ma propre main. C'est moi qui paierai. » Ici, ce qui me touche, c'est que cette responsabilité que prend Paul à l'égard d'Onésime, en réalité, c'est un enjeu pour sa liberté, pour la liberté d'Onésime. Parce que Philémon dirait, non, mais je ne peux pas le libérer, je ne peux pas te le renvoyer, je ne peux pas l'émanciper. Imaginons, il a volé de l'argent, il me doit quelque chose, il doit travailler pour rembourser. Il y a un enjeu aussi de liberté dans ce que Onésime potentiellement lui doit. Et parce que Paul se tient garant de rembourser les conséquences du possible dommage qu'Onésime aurait causé, Philémon, sûrement, va renvoyer Onésime auprès de Paul et va le libérer du joug de l'esclavage. Et la dette d'Onésime est réparée. Et il en est de même pour la parabole du bon samaritain, finalement. Il est dit, je crois, verset 34, « Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Parce que cet homme accepte de payer pour l'homme qui a été battu à mort, ce dernier peut guérir. Ce dernier peut être restauré. Et ici encore, c'est Jésus qui nous montre le chemin. Alors que ses amis l'ont renié, alors qu'il a été maltraité, qu'on lui a craché dessus, qu'on lui a enfoncé des lances dans les côtes, alors qu'on s'est moqué de lui ouvertement, de sa prétendue royauté, de sa prétendue messianité, je ne sais pas si ça se dit, il a pris nos fautes. Mais il a pris les fautes pour ceux qui crachaient sur lui. Il a pris les fautes aussi de ses amis qui l'ont renié. Il a pris la responsabilité sur lui, pour nous. Et il est allé mourir à la croix. Parce qu'en réalité, c'est nous qui méritions la mort. Et parce que lui, il a pris ce joug sur lui, cette dette qui était la nôtre. Nous sommes libres, nous pouvons être libres. Si on accepte ce qu'il a accompli, on peut être restauré et on peut être guéri. Jésus, dans sa richesse, Dieu dans sa richesse a donné et pourvu. Et Jésus dans son amour n'a rien retenu. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à sa suite. La lettre à Philémon, elle nous appelle à changer de regard, le regard que nous avons les uns sur les autres. Que ce regard ne soit pas influencé par le passé d'une personne, par les conflits du passé qu'on a, par ce qu'il aurait pu nous faire, par son caractère qu'on ne supporte pas, par des mots blessants qu'il nous adresse, par peut-être ce manque de considération qu'on a l'impression dans la communauté, on est appelé à changer de regard. On est appelé à accueillir l'autre de manière inconditionnelle. Et la lettre à Philémon, finalement, elle nous invite à nous tenir responsables pour notre prochain. Et j'aimerais vous inviter maintenant, si tu peux mettre la musique, Hubert. J'aimerais maintenant vous inviter à une forme d'appel, mais un appel où pendant quelques 4 minutes, prenez le temps juste de peut-être de relire la lettre, de réfléchir à ce que j'ai partagé et de voir comment est-ce que Dieu ou l'Esprit travaille vos cœurs. Peut-être que c'est un moment de restauration que vous avez besoin. Peut-être que c'est aussi... peut-être que l'Esprit va vous inspirer de demander pardon ou de pardonner. Peut-être que vous-même, vous n'avez pas reçu votre prochain. Peut-être que vous n'avez pas manifesté l'amour que vous-même avez reçu de Christ. Et ce qu'on vit là maintenant, c'est le cœur de Dieu. Et Dieu veut que nous manifestions de l'amour les uns pour les autres, qu'on s'accueille. Et j'aimerais vous donner un court témoignage avant de vous laisser. Ce matin, c'était difficile pour moi de venir parce que je dormais mal. Je suis dans une chambre au dernier étage d'un immeuble. Il fait tellement chaud. J'avais tellement de rendu. Ce matin, j'étais là, ça va être n'importe quoi. Je vais faire n'importe quoi. Mais simplement en étant comme ça, en préparant le culte avec Rebecca et avec toutes les personnes qui étaient présentes, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. La communion fraternelle, c'est un lieu de bénédiction. Voilà, je vous invite, je vous laisse un temps pour méditer. Et puis, Saint-Esprit, rend nos cœurs malléables sous tes mains. Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Et je prie pour que nous soyons obéissants, Seigneur, à ce que tu vas nous révéler. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen.